Bonjour tout le monde, malgré ce contretemps, voilà, nous continuons dans Sanhedrin, à la page Tzadik Zayin Amoud Bet, c'est à 97b. De quoi s'agit-il? Alors si vous comptez dans l'édition, dans l'édition classique à partir du bas, alors ça vous donne 2, 4, 6, 8, 10 lignes à partir du bas. Non, dans l'édition Steinsaltz, non. D'accord ? 10 lignes à partir du bas, et au milieu de la ligne, vous avez Amar Rav. Vous avez trouvé ? Tu as trouvé ? 10 lignes à partir du bas, au milieu de la ligne, Amar Rav. Kalou Kolakitsi. Tu n'as pas trouvé? Tu n'as pas trouvé, n'est-ce pas? Sadik Zayin Amoud Bet, c'est-à-dire la page 194 dans l'édition classique, 10 lignes à partir du bas, au milieu de la ligne, là où il y a écrit Amarav. La prochaine fois, ne me dis pas n'importe quoi quand je te demande si tu as trouvé. Bon. Donc on en est à Amoud Bet. 10 lignes à partir du bas, au milieu de la ligne, Amar Rav. Ce qui veut dire Rav a dit. Kalou Kolakitsin. Toutes les fins sont épuisées. C'est-à-dire qu'à toutes les fins, les calculs de la venue du Messie. Il y a eu de nombreux calculs qui ont été faits pendant l'histoire, sur la base de versets en particulier du livre de Daniel, mais également sur d'autres versets. Et tous ces calculs se sont révélés faux. Mais ça veut dire quoi, qu'ils se sont révélés faux? Rav ne dit pas qu'ils se sont trompés. Il dit ces fins sont épuisées. Ça veut dire que ce sont des potentialités de l'histoire qui n'ont pas été utilisées. Il y a des moments dans l'histoire où le Messie peut venir. Voilà. Ces pages Tzadik Zayin Amoud Bet, 10 lignes à partir du bas. C'est au milieu de la ligne Amar Rav. Kalou Kolakitsin. Donc toutes les fins qui ont été calculées, ce sont des potentialités qui existaient, mais qui n'ont pas été exploitées. Kalou Kolakitsin. Toutes les fins sont épuisées. Vena Davar Talouy. Et la bitchouva ou ma'asim tovim. La chose ne dépend que du repentir et des bonnes actions. Ce qui voudrait dire qu'en fait, Rav semble remettre en question des versets de la Bible qui disent qu'il y a une fin. C'est bizarre, à moins que Rav ne comprenne que ces versets de la Bible nous disent que si on fait teshuva, alors les dates en question sont exploitables. Mais de toute manière, il faut faire teshuva. Shmuel Amar, et Shmuel a dit, Dayo la Avel, Sheya Amod Be'evlo. L'endeuillé en a assez de son deuil, il doit se relever. Il y a une limite au deuil. Le deuil de qui? Alors, il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui disent le deuil d'Israël. Ça a une limite, toute chose a sa limite. Et d'autres disent que c'est le deuil de Dieu. C'est que Dieu n'en veut plus de ce deuil. Parce qu'il veut amener sa présence sur terre. Une impatience divine, si vous voulez. D'autres disent c'est le deuil du Mashiach lui-même. Il est endeuillé de ne pas venir. Il en a assez. Je dis en tout cas de Shmuel qu'il y a une nécessité historique de la Géoula qui fait que quoi qu'il en soit, les événements vont se précipiter à un moment ou à un autre et Israël est libéré. Bon, ça c'est donc le débat entre Rav et Shmuel. Rav et Shmuel sont des Amoraïm. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que lorsque ils ont vu la longueur de l'exil, les Amoraïm ont eu la moutarde au nez, qui leur montait au nez, disant qu'il y en a assez, dit l'Amora. Seulement, ce débat n'a pas commencé avec les Amoraïm, il a commencé avec les Tanaïm. Qu'est Tanaï ? C'est le même débat qu'on retrouve chez les Tanaïtes. Rabbi Eliezer, Omer. Rabbi Eliezer dit « Im Yisrael rosin teshuva nigalin, veim lav en nigalin. » Si Israël fait teshuva, ils sont libérés. Et sinon, ils ne sont pas libérés. Alors, essayons de comprendre l'opinion de Rabbi Eliezer, qui semble être l'ancêtre de l'opinion de Shmuel. Le Mashiach ne peut pas venir, la Géoula ne peut pas venir, si Israël n'a pas fait ses choix, si on n'est pas digne de l'événement. Quelle que soit la halakha, est-ce qu'on accepte l'opinion de Rabbi Eliezer ou pas ? Une chose est évidente, si je dis que la Géoula dépend de la Teshuvah, ça veut dire que la Géoula n'est pas la Teshuvah. Si je dis que A dépend de B, ce qui veut dire que A n'est pas B. Êtes-vous bien d'accord ? Vous êtes d'accord avec ce que je dis là ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que parfois, nous avons des interprétations assez bizarroïdes qui expliquent que la Géoula, c'est identique au phénomène de la Teshuvah. C'est-à-dire, le jour, disaient certains, où l'on donnera des cours de Guémara à la télé, c'est là le Mashiach. Ce qui est n'importe quoi. Parce que le jour où on fait des cours de Guémara à la télé, ça veut dire que le monde a fait Teshuva. Mais ce n'est pas encore la Géoula. C'est-à-dire, la Géoula, c'est un autre événement que celui de la Teshuva. Seulement, Rabbi Eliezer met en rapport l'un avec l'autre. Vous avez compris ? Pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer dit ça ? Sur quoi il se fonde pour dire une chose pareille ? Ou sur quoi se fonde Rav pour dire une chose pareille ? Ben, c'est très simple, ça fait partie de l'exigence morale de toute la Torah. Nous avons une exigence morale que l'homme soit méritant de ce qu'il reçoit. Et donc le mérite, c'est la Teshuvah, puisqu'on est parti en exil à cause du péché. Bon, ça pose un problème, ce que je dis là, parce que est-ce que c'est vraiment à cause des péchés que nous sommes partis en exil ? Le Maharal de Prague nous avertit dans Netzach Israël, ne crois pas que l'exil est causé par le péché. Parce qu'une chose aussi énorme ne peut pas venir de quelque chose d'aussi accidentel que le péché. Le péché n'est pas quelque chose dans la nature de l'homme, c'est un accident de l'homme. Donc si c'est quelque chose de contingent, comme on dit, quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas forcé de se passer, alors on ne peut pas faire dépendre une modalité aussi importante de l'histoire d'Israël, qui est celle de l'exil, d'un événement qui est finalement possible. Vous avez compris ce que je dis là ? Donc il y a un problème. Si la galoute ne vient pas du péché, pourquoi est-ce que la Géoula dépendrait de la Teshuvah ? Cependant, dans les prières, nous disons « Nipener hata'enu galinu me'artsenu » à cause de nos péchés, nous avons été exilés de notre terre. Mais le Maharal de Prague dit « Oui, mais bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas faire sortir Israël en exil sans justification morale. Donc il fallait attendre qu'Israël pêche. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont partis en exil. C'est comme si on vous attend au tournant, c'est une sorte d'embûche qu'on vous met pour vous faire tomber. Mais dès le départ, on voulait que vous tombiez. Hein ? Exactement. Les dés étaient pipés dès le départ. Donc, il y a autre chose. Mais alors, pourquoi est-ce que si c'est vrai, alors Rabbi Eliezer dit que c'est la Teshuvah qui va nous faire revenir. Et si on ne fait pas Teshuvah ? Vous comprenez ce que dit Rabbi Eliezer ? Rabbi Eliezer dit quelque chose d'absolument énorme. Que l'on peut envisager que jamais Israël ne revienne. Que jamais Israël ne soit libéré, si jamais on ne fait Teshuvah. Parce que faire Teshuvah, c'est un acte libre. Le libre arbitre fait que je peux choisir le bien autant que je peux choisir le mal. Rien ne m'assure qu'un jour Israël fera Teshuvah. Alors pourquoi faire dépendre la Géoula, qui est un événement quand même important de l'histoire, qui est la réussite de l'histoire, faire dépendre ça de quelque chose aussi aléatoire que la teshuva de l'homme, là je vais dans l'autre sens. C'est-à-dire, de même que l'exil ne peut pas venir de quelque chose d'aléatoire, de même la Géoula, faire dépendre la Géoula d'un événement qui dépend de l'homme, c'est faire beaucoup de confiance à l'homme. À moins que Rabbi Eliezer ne soit persuadé qu'Israël de toute manière fera teshuva. Il ne le dit pas. En tout cas, il dit autre chose. Il dit « Im Israël osim teshuva nigalim, veim lav en nigalim. » Si Israël fait teshuva, ils sont libérés, et sinon, ils ne sont pas libérés. D'accord ? Toda Rabba. Amarle, Rabbi Yehoshua. Donc, nous avons ici un problème. C'est-à-dire, en fait, les deux opinions sont problématiques. Dire que la Géoula dépend de la teshuva est un problème. Dire qu'elle ne dépend pas de la teshuva était aussi un problème moral. Comment quelque chose d'aussi énorme se ferait sans la participation morale de l'homme? Il y a ici toute une dialectique très touffue. Amarle Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua lui a répondu. Im en osin teshuva, en igalim. Comment? S'ils ne font pas teshuva, ils ne sont pas sauvés. C'est-à-dire, c'est l'étonnement même de Rabbi Yehoshua qui est en soi une objection. Là, vous avez une petite étoile. Vous avez remarqué qu'il y a une petite étoile? Chez toi, il n'y a pas. Non. Mais dans les autres éditions, vous avez une petite étoile. Vous avez remarqué? Non, pas du tout. Il y a écrit le mot « Ella ». N'est-ce pas? Mais si vous remarquez, dans la marge de gauche, il y a écrit « Birushalmi Hagirsa Amarlo Rabbi Eliezer ». C'est-à-dire que le « Ella » est peut-être une erreur de copiste. C'est très important parce que le problème est de savoir est-ce que la suite de la ligne que nous allons lire, c'est la continuation des paroles de Rabbi Yehoshua, ou est-ce que ça serait la réponse de Rabbi Eliezer? Voyons ce que dit le texte tel qu'il est imprimé devant nous. Après, on va voir comment il faut le comprendre d'après le Yerushalmi. Et là, mais, Akadosh Baruch Hu ma'amid lahen melech, shegzerotav kashot kehamman. Dieu mettra à leur tête un roi dont les décrets sont aussi durs que celui de Haman. C'est qui Haman? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Exterminer. C'est la solution finale. Donc, il y aura un méchant qui va envisager la solution finale du peuple juif. Ve Israël, osin teshuva. Alors Israël fera teshuva. Umahaziran les mutav et les ramène au bien. Alors, si je prends le texte tel qu'il est imprimé devant nous, ça veut dire que Rabbi Eliezer, lui, pensait qu'Israël ne pourrait pas faire teshuva, pourrait ne pas faire teshuva. Rabbi Yehoshua pense que de toute manière, Israël fera teshuva et que c'est la condition de la Géoula. D'accord? Ça rentre pas dans, ça cadre pas avec ce qu'a dit Rabbi Eliezer, ce qu'a dit Rabbi Yehoshua au début. Parce que Rabbi Yehoshua a dit, Imen osin teshuva en igalim, dit-il étonné. Comment? S'ils ne font pas teshuva, ils ne sont pas sauvés. D'après la suite telle que nous avons lue, Rabbi Yehoshua est d'accord qu'il faut faire teshuva pour être sauvé. Donc, ça prouve que c'est une erreur de copiste et qu'il faut lire comme dans le Talmud de Jérusalem. Regardez ce que dit le Talmud de Jérusalem sur la gauche. Dans la marge de gauche, vous avez Birushalmi, vous avez vu? Non, chez toi, il n'y a pas. Mais dans les autres éditions, vous avez vu? Il y a écrit sur la gauche. Dans la marge de la ligne, à la même hauteur que la ligne. La gauche, c'est l'autre côté. Non, dans la marge de la Guémara, là, très bien. Là, oui, c'est ça, vous y êtes. Vous n'avez pas trouvé?
Thank you.
Voilà. Dans la Yerushalmi Hagirsa, dans le Talmud de Jérusalem, la version c'est Amar lo Rabbi Eliezer. En fait, ce que nous disons là est la réponse de Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer ? Il dit non, mais pas du tout, ne t'en fais pas. De toute manière, Israël fera teshuva parce qu'il y aura un roi méchant. Hein ? C'est-à-dire que la Géoula dépend de la teshuva, mais qu'ils seront forcés de le faire. Oui, exactement. Alors, ça veut dire que Rabbi Yehoshua pense que même sans Teshuvah, il y a la Géoula. Maintenant, une petite, quand même, une lecture attentive de ce qu'on a vu là après le mot Kehaman. N'est-ce pas ? Après que le décret est comme Haman, il y a écrit quelque chose de surprenant. Ve Israël osin Teshuvah, ou marziran les mutav. Israël fait Teshuvah et revienne au bien. Je n'ai pas compris. Faire Teshuvah, c'est pas revenir au bien ? C'est une redondance. Deux biens différents. Lesquels ? Ah, ça voudrait donc dire qu'il y a revenir au bien, on sait ce que c'est faire la Torah. Et donc faire teshuvah, ça veut dire revenir en Eretz Israël. Comment je le sais ? Ben, c'est ce qui ressort du texte de Devarim au chapitre Lamed, qu'on avait étudié à propos de Hilchot Teshuvah. Comme quoi, le retour en Eretz Israël, c'est la forme collective de la Teshuvah. Il y a une petite question. De notre temps, nous avons connu un roi dont le décret était aussi dur que celui d'Aman. Est-ce qu'Israël a fait Teshuvah ? Il est revenu en Eretz Israël. Est-ce qu'il est revenu au bien ? Il fait la Torah ?
Pas tous.
Alors comment ça marche ? On voit bien qu'il peut y avoir un roi méchant qui a des décrets comme Aman. Israël ne revient pas au bien. Hein ? Très juste. Ça se fait par étapes. D'abord, on revient. Après, il y a des étapes. D'accord ? Et les étapes, ça se fait progressivement dans la société israélienne, comme on peut le voir de nos jours. Tania Idar. Nous avons un autre enseignement. Une autre braïta. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer disait, Im Israël osin teshuvah, Nigalim. Rabbi Eliezer disait que si Israël fait teshuvah, ils sont libérés. Shenehemar. Alors là, il amène un verset. Ainsi qu'il est dit, Shuvu banim shovavim, erpa meshuvotechem. Revenez, enfants turbulents, je guérirai vos turbulences. Donc, l'initiative doit venir des enfants d'Israël, qui sont les enfants turbulents, et c'est à eux de revenir. Amar lo Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehoshua lui répond, « Va'alo kvar ne'emar, n'est-il pas déjà dit, « Hinnam nimkartem, velo bakesef tigaelu. Vous avez été vendus gratuitement, vous ne serez pas sauvés par l'argent. » Ça veut dire quoi ? Chinam nimkartem ba'avodazara. Vous avez été vendu gratuitement, c'est-à-dire à quelque chose qui est gratuit. C'est l'idolâtrie. Velo ba'kesef tigaelu. Vous ne serez pas libéré par l'argent. Lo bitshuva ou ma'asim tovim. Pas par la teshuva et des bonnes actions. Donc Rabbi Yehoshua oppose un verset à un autre verset, au premier verset de Rabbi Eliezer. Les Tanaïm aimaient probablement jouer au ping-pong. Amar lo Rabbi Eliezer le Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer répond à Rabbi Yehoshua. Va'alo kvar ne'emar, n'est-il pas déjà dit? Shuvu elai, revenez à moi. Ve'ashuva alechem, et alors je reviendrai à vous. Donc il faut faire teshuva. Amar le Rabbi Yehoshua. Va'alo kvar ne'emar, n'est-il pas dit, dit Rabbi Yehoshua. Ki anochi ba'alti bachem, car j'ai été violent envers vous. Je prends possession de vous. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous amènerai à Tzion. Ça fait frémir ce que dit Rabbi Yehoshua. La Géoula viendra de toute manière, même s'il ne reste qu'un seul de toute une ville, ou deux d'une famille. Waouh. Amarlo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui répond, va alors par Neymar, mais n'est-il pas dit? Beshuva vanahat tivashion. Par le retour et la tranquillité, vous serez sauvés. C'est-à-dire, les apocalypses de Rabbi Yehoshua ne sont pas reconnus par Rabbi Eliezer. Amar le Rabbi Yehoshua de Rabbi Eliezer. Alors Rabbi Yehoshua répond à Rabbi Eliezer, va l'offrir Nehemar, mais n'est-il pas dit? Koamar Hashem, ainsi parle l'Éternel, Goel Israël Ukdosho, sauveur d'Israël, son saint. Livzon Nefesh, Limtaev Goy, à l'homme méprisé, à la nation abominée, les Eved Moshlim, asservis à des empires. Mais la Chim Irou, Vekamu, les rois se lèveront, verront et se lèveront. Sarim, Vaishtahavu, les princes se prosterneront. Vous ne pouvez pas passer à la page d'après. Vous allez passer à la page d'après. Et donc, on voit bien que quand Israël est méprisable, il est sauvé. Donc même quand il ne fait pas teshuva. Amar lo Rabbi Eliezer, alors Rabbi Eliezer lui répond. Vahalo, kfar ne'emar, mais n'est-il pas déjà dit? Im tashuv Israël, ne'um Hashem, elai tashuv. Si tu reviens à moi, Israël, parole de l'Éternel, c'est à moi que tu reviendras. Ce dernier verset de Rabbi Eliezer est effrayant. Parce qu'il y a ici du conditionnel. Si tu reviens. Ce qui suppose qu'Israël ne peut jamais revenir. Et donc l'exil serait éternel. Amarlo Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua lui répond. Donc il amène ici le joker. Valo par Nehemar. N'est-il pas déjà dit? C'est un verset de Daniel. Vaishma et Aïch Levou Shabadi, ma chère Mima, les mémé Ayehor. J'entendis l'être habillé de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Vaïarem Yemino, son holo la Shamaim. Il leva sa droite et sa gauche vers le ciel. Vaishava Bechaya Olam. Il jura au nom du vivant du monde qu'il est Moed Moadim Vahetzi, qu'après une période, deux périodes et une demi-période. Uchechalot napet yadam kodesh, lorsque la main du peuple saint aura fini d'être éclatée, tichlena kol elle vegomer, tout ceci sera fini. Donc il y a une date. Veshatak Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer s'est tu. S'il se tait, ça veut dire quoi? Il n'a plus rien à dire. Et donc? Il a reconnu?
C'est pas qu'il a reconnu, mais qu'il ne trouve pas de truc pour le contredire. Donc il est d'accord sans vraiment vouloir être d'accord.
Ouais. Il y a un principe dans la halakha qui est shtika keoda. Hein. Se taire, c'est comme reconnaître. Donc ça voudrait dire peut-être que Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yehoshua. Mais dans ce cas-là, il aurait pu le dire.
Il a pas envie
d'abord. Exactement. Il ne veut pas. Il n'a pas de réponse, mais il est choqué. Il est choqué par l'argument de Rabbi Yehoshua. Il pourrait peut-être répondre quelque chose. En tout cas, peut-être qu'il n'a pas de quoi répondre. Mais le fait qu'il y ait une preuve basée sur un verset, une preuve scripturale, ne suffit peut-être pas pour Rabbi Eliezer. Parce qu'il y a un problème moral. Comment mériter quelque chose? Comment recevoir quelque chose sans le mériter? D'accord? Bon, tout cela, c'est intéressant, mais pourquoi ne pas chercher ce que dit la Torah? Je ne sais pas si vous avez remarqué que tous les versets qui ont été amenés étaient des versets des prophètes. Et la Torah, elle n'a rien à dire là-dessus. Voyons ce que dit la Torah. Pour voir ce que dit la Torah, il faut pour cela lire la Torah. C'est ce que nous allons faire. Ceci est le livre de Bamidbar. Dans le livre de Bamidbar, il est question de l'exil. Je me trompe. Ce qui est important, c'est Vayikra que nous avons besoin.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de ça extérieur avec
le Maharal.
Pourquoi est-ce que lui, il pense, il ne croit pas que l'exil, ça vient du péché,
pourquoi c'est l'exil? C'est une nécessité historique. Pourquoi? Ça fait partie de tout un projet. Il faut étudier le Nessar Israël. Nous avons à la fin du livre de Vaïkra une série de bénédictions et une série de malédictions. Les bénédictions si nous faisons ce qu'il faut et les malédictions si nous ne faisons pas ce qu'il faut. Et puis, après la liste des malédictions, Afani Eler Imam Bekeri, moi aussi j'irai avec eux par des voies hasardeuses. C'est dans le chapitre Kafvav, dans les versets même Aleph et même Bet. 26, chapitre 26, versets 41-42. Afani Eler Imam Bekeri, moi aussi j'irai avec eux par des voies hasardeuses. Veveti otam beretz oyvehem, je les amènerai dans le pays de leurs ennemis. Oaz, dikana levava me'arel, alors leur cœur incirconcis se soumettra. Ve'az yirtzu et avonam, ils purgeront leurs fautes. Ve'zacharti et biriti Yaakov, je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. Ve'af et biriti Yitzhak, et même de mon alliance avec Yitzhak. Ve'af et biriti Avram Ezkor, et même mon alliance avec Avram, je m'en souviendrai. Ve'aharetz Ezkor, et je me souviendrai de la terre. Donc il y a ici une promesse qu'après l'exil, il y aura une fin de l'exil. Mais ça dépend de quoi? Je reprends ici le texte en hébreu. Oaz, yikana lebava me'arel. Que veut dire le mot az? Alors. Et que veut dire le mot o? Ou alors? C'est un mot bizarre le mot o. Alors, en hébreu, d'habitude, le mot « o » signifie, comme en français, « ou », avec un accent grave, sur le « u ». Non, pardon, non, sans accent, pardon, « ou », sans accent. Mais, regardez dans Rashi, si vous n'avez pas Rashi. Rashi amène deux interprétations possibles pour le mot « o ». La première, c'est que c'est l'équivalent du mot « im », qui signifie le conditionnel. Et la deuxième interprétation de Rashi, c'est que c'est comme le mot « oulai », qui veut dire « peut-être ». Alors, si je lis d'après le « im », il faut lire comme ça. « Im yikana levava me'arel », c'est-à-dire « si leur cœur incirconcis se soumet, alors je me souviendrai de mon alliance ». C'est comme Rabbi. Comme Rabbi Eliezer, puisqu'il fait dépendre la Géoula de Teshuvah. Mais si je dis « Oulai », c'est peut-être qu'alors leur cœur incirconcis sera soumis. De toute manière, je me souviendrai de mon alliance. Comme Rabbi Yoshua. Il y a ici un petit problème. Pourquoi est-ce que la Torah, pour un sujet aussi important, a employé un mot ambigu? Elle aurait pu dire la Torah, au lieu du mot « o », elle aurait pu dire « im » ou bien « oulai ». Comme ça, on aurait évité tout secours. Ça veut donc dire que dans l'intention du texte, il y a que soit créée la controverse. C'est-à-dire, la controverse dans l'interprétation de la Torah est voulue par la Torah elle-même pour qu'il y ait l'opinion de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Et ce pourquoi ? Parce qu'il y a un avantage et un désavantage à chacune des opinions. L'avantage de Rabbi Yoshua, c'est que l'histoire va réussir. Le désavantage, c'est que ça passe pas par la morale. Le désavantage pour Rabbi Eliezer, c'est qu'il est possible que l'histoire ne réussisse pas. Mais l'avantage, au moins, c'est qu'on est resté dans l'équation morale. Alors, il faut que les deux soient possibles. Mais non, dans la réalité, ce sera soit Rabbi Eliezer, soit Rabbi Yehoshua. La halakha est certainement comme Rabbi Yehoshua, puisque il s'est tué, Rabbi Eliezer. Mais ça veut dire que l'exigence morale reste. C'est vrai que la Géoula ne dépend pas de la Teshuvah, mais faites Teshuvah quand même. D'accord ? Donc, Veshatak, Rabbi Eliezer. Maintenant, ce débat, il va y avoir un problème. Si je veux savoir si la Géoula est proche ou pas, qu'est-ce que je dois voir dans la réalité d'après Rabbi Eliezer ? Que les gens font Teshuvah. Plus les gens font Teshuvah, plus ils accomplissent les mitzvot. Donc la Géoula est proche. C'est un signe évident. Mais pour Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qui va m'indiquer que la Géoula est proche ? Ça ne dépend pas de la Teshuvah.
La venue en Israël.
La venue en Eretz Israël.
La montée des Juifs en Eretz Israël, ça veut dire qu'ils commencent à chercher l'exil, ils commencent à arriver en Israël. Donc ça commence à.
Ça commence à être la Géoula, parce qu'on n'a pas tous. Alors, on va voir effectivement ce que. C'est un peu ce que dit le texte. On va voir. Ve'amar Rabbi Abba. Et Rabbi Abba a dit. Vous avez remarqué qu'au début du premier mot, il y a un vav. Ve'amar Rabbi Abba. Le vav veut dire et. Ce qui veut dire que ce que dit Rabbi Abba est en rapport avec ce qui a été dit plus haut. Rabbi Abba vit quelque chose comme 120, 150 ans après Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Donc, comment se fait-il que Rabbi Abba, qui est un Amora, de la troisième génération, et qui est donc séparé de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua de sept générations, rentre dans leur débat ? Ve'ama Rabbi Abba. Bizarre, non ? En fait, ça veut dire que Rabbi Abba vient répondre à la question que nous avons posée. Puisque la halakha est comme Rabbi Eliezer, alors comment savoir si la Géoula est proche ? Et c'est la réponse qui nous est donnée par Rabbi Abba. Ve'amar Rabbi Abba, En lecha ketz megoulé mizé, tu n'auras pas de fin plus évidente que celle-là. Shenemar, ainsi qu'il est dit, Ve'atem hare Israël, quant à vous, montagne d'Israël, anpechem titenu, donnez vos branches, ufiriechem tisou, portez vos fruits, les amis Israël, pour mon peuple Israël, ve'gomer, etc. C'est quoi le etc. C'est la suite du verset, kikervu lavo, car ils sont proches de revenir. Donc ce que dit Rabbi Abba, à partir du moment où commencera une résurrection agricole d'Eretz Israël, nous savons que c'est l'approche de la Géoula. Les événements ont prouvé qu'il avait raison, puisque depuis le milieu du XIXe siècle, ont commencé des nouvelles implantations qui ont fait refleurir le désert. Et par la suite, il y a eu la Géoula, puisqu'en 1948, l'État d'Israël a été fondé. Donc Rabbi Abba a raison. Il dit, il y a déjà eu le début de la Géoula, il y a le début de la Géoula quand ça commence à refleurir. Pourquoi ? Bon, disons que c'est vrai. Mais pourquoi c'est vrai ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la résurrection agricole devient le signe évident de la Géoula ? Parce que c'est la chose la plus fondamentale, la plus matérielle. Or, la Géoula inclut toutes les dimensions de la vie, donc il faut commencer par la plus matérielle. Donc il faut le retour de la richesse économique pour que la Géoula soit possible. Effectivement, la Géoula a été faite par l'intervention de grands donateurs juifs du monde entier, Rabbi Moshe Montefiore, et puis après le baron de Rothschild, et après tout le monde y a mis le paquet. D'accord ? Et c'est là que les enfants d'Israël ont commencé à sortir de la bassesse matérielle noire dans laquelle ils se trouvaient. Rappelez-vous que dans la première moitié du 19e siècle en Eretz Israël, les gens mouraient littéralement de faim. Les gens pouvaient mourir de faim, tout simplement. Et à partir de la deuxième partie du 19e siècle, ça a commencé à se calmer. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'intervention, justement, du peuple juif. Il y a eu, entre autres, Mikvé Israël aussi, fondé par l'Alliance israélite universelle, Charles Netter. Et c'est là qu'a commencé la révolution agricole. Donc, c'est le prophète Ézéchiel qui a raison. Jusque là, vous me suivez ? Bon. Oui ? Le Rav qui ? Le Rabbi de Satmar, oui. Énorme. Énorme. D'accord. C'est-à-dire des oranges de la taille d'une pastèque. Oui. Lorsqu'il y aura des oranges de la taille d'une pastèque, c'est alors que ce sera le signe de la Géoula, mais pas avant. Le problème, c'est que les événements lui ont donné tort, puisqu'il y a eu la Géoula, bien que les oranges aient seulement des tailles d'oranges. C'est aussi un argument, la réalité. Bon, oui ? Oui, mais je ne sais pas ce qu'il y a écrit là. Regardez ce que dit Rashi. Je connais le Maharsha, mais regardez Rashi. Regardez Rashi. Là où il écrit Megoulé Mise. Que dit Rashi ? Keshetiten Eret Israël Piria Be'ain Yafa. Lorsqu'Israël donnera ses fruits généreusement, Azikra Vaketz, c'est alors que se rapprochera la fin. Ve'en Echaketz Megoulé Yoter, il n'y a pas de fin plus évidente. Bien avant le rabbi de Satmar, il y a eu une quantité très appréciable de rabbins très importants en Europe qui ont dit que ce signe était accompli depuis qu'ont été fondées les premières implantations en Eretz Israël, Mikvé Israël, Rosh Pina, Petah Tikva, Khadera. Comment ? Qui dérangeait quoi ? Non, non, pas du tout, au contraire. Il y a des grands maîtres qui ont dit, puisqu'il y a maintenant une révolution agricole, c'est donc que le signe indiqué par la Guémara s'est réalisé. Une partie sont partis, une partie ont envoyé les autres, ils ont soutenu le mouvement Chovevé Tzion, les amants de Sion, qui était antérieur à l'organisation sioniste mondiale fondée par Herzl, et qui entretenait justement le Yishuv à l'époque. D'accord ? Il y a même un texte du natif de Vologine qui dit que le signe évident que la main de Dieu est là-dedans, c'est que le tsar de Russie a autorisé à ramasser de l'argent pour envoyer dans les colonies. C'est-à-dire, le goy a autorisé de faire du schnor, et c'est la preuve donc que Dieu est intervenu. D'accord ? Il y a un argument contre ce que je vous dis là, qui est que ce texte de la Guémara n'a pas été repris par le Rambam dans son texte sur le Mashiach. C'est à la fin du Mishneh Torah, il y a deux chapitres dans lesquels le Rambam donne les détails des halachot de la venue du Messie, et il ne cite pas ce texte de la Guémara, comme quoi ce texte n'est pas admis par le Rambam. Or, d'après ceux qui argumentent de cela, étant donné que le Rambam est le seul des poskim à avoir écrit des halachot de la Géoula, donc il est la seule autorité. Et comme aucun des commentateurs du Rambam sur cette page n'ont rien dit, n'ont dit quelque chose, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que ce texte de la Guémara n'a rien à voir. Et donc, qui peut aujourd'hui oser penser, contrairement au Rambam et à tous ses commentateurs qui sont le Rabbi Yosef Karo et le Radbaz et tout le reste, et dire que les fruits des restes Israël sont le signe de la Géoula. Fin de citation de l'opinion en question. D'accord ? Vous avez compris l'objection ? Comment ? Oui, mais j'ai expliqué sur quoi se base cette opinion qui dit que ce n'est pas la halakha. Le fait que le Rambam ne l'ait pas cité, qu'il est la seule autorité en halakha du point de vue messianique, et que les commentateurs du Rambam n'ont rien dit, c'est donc qu'ils sont d'accord avec lui. Donc qui peut oser dire le contraire? Et qui dit qu'il comprend mieux que tous ces gdolim ce texte de la Gemara? Voilà, fin de la présentation de l'opinion en question. Cette opinion est absolument fausse pour différentes raisons. Et je vais rentrer dans le détail, si ça vous intéresse. Tout d'abord, l'argument fondamental qui est que le Rambam est la seule autorité, puisqu'il est le seul à avoir écrit des halakhot sur la Géoula, c'est n'importe quoi. Il y a d'autres grands maîtres qui ont écrit des livres sur la Géoula, ils n'ont pas écrit en haut halakha. Mais le Ramban, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaGéoula, le livre de la Géoula, dans lequel il traite des textes du Rambam et des autres, etc. Alors il n'a pas écrit Ilchot Géoula. Alors, Rabbi Saadia Gaon, dans Emunot Vedeot, il a toute une partie de son Emunot Vedeot qui s'appelle Mahamar Apedut. C'est le texte concernant donc la Géoula. Et il rentre tout à fait dans le détail. Alors, parce qu'il n'a pas écrit en haut Halacha, alors ce n'est pas une Halacha. Donc, et sans parler donc des nombreux textes, Rabbi Yitzhak Abrabanel qui a écrit un livre qui s'appelle Mashmia Yeshua. Et donc, tous les maîtres qui ont parlé de la manière dont la Géoula se fera, ils font partie du débat halachique. Tout d'abord, ça c'est le premier point. Deuxièmement, oui, le Rambam s'est basé sur ce texte que nous venons de lire pour fixer une autre halakha dans les règles de la prière, Ilchot Tefila. En effet, il y a une règle dans Maseret Megillah, page 17a, comme quoi, si on a interverti l'ordre des bénédictions du Shmoné Esrei, on ne s'est pas acquitté de son devoir. Parce que l'ordre est important. Et pourquoi cet ordre-là? Et le Rambam le dit aussi. Et pourquoi cet ordre-là est important? Tout simplement parce qu'il y a une raison à l'ordre des brachot qui est détaillée dans le traité de Megillah. Et là-bas, il est dit en toutes lettres qu'il faut faire précéder la bénédiction des années, Birkat Hashanim, Mavrochat Hashem et Vachashanim, il faut toujours la mettre avant Teka Beshofar Gadol et Chirutenu, la bénédiction de la Géoula. Pourquoi, dit la Gemara? Parce qu'il est dit dans Ézéchiel qu'il faut d'abord qu'il y ait les fruits des Rêtes Israël avant de revenir. C'est écrit en toutes lettres dans Maseret Megillah. Et le Rambam, il a fixé ça comme Halakha dans Ilchot Tefila. Et aucun des commentateurs n'a objecté que soit que ce soit. Et donc, qui peut prétendre qu'il comprend mieux que le Rambam et tous les commentateurs ce texte de la Gemara dans Megillah? Vlan. En cela, nous avons réfuté l'opinion du Rabbi de Lubavitch. Bon. Donc, je reprends ici le texte de la Gemara. Rabbi El-Azhar Omer, Afmizé. Il y a un deuxième signe de la Géoula d'après Rabbi El-Azhar. Ainsi qu'il est dit, alors là, c'est quand ce verset va s'accomplir. Kilifne ayamimahem, car avant ces jours-là, je reprends ici la Gemara, car avant ces jours-là, Sechar ha'adam lo nihiya, le salaire de l'homme ne sera pas donné. Ushar behema enena, le salaire de la bête ne sera pas donné. Velayotse velaba en shalom, pour ceux qui sortiront et qui rentreront, il n'y aura pas de paix. Minatsar, à cause du persécuteur. Mai layotse velaba en shalom, que signifie celui qui sort et qui rentre n'aura pas de paix? Minatsar, du persécuteur. Rav Amar, Rav a expliqué, Af Talmidei Chachamim, Shekatuv Bahem Shalom, même les rabbins dont il est dit qu'ils sont en paix, dirtiv, puisqu'il est dit, Shalom Rav Lo Ave Toratecha, grande est la paix de ceux qui aiment ta Torah, même eux, En Shalom, Ipnetzar, n'auront pas la paix à cause du persécuteur. C'est-à-dire, ce que dit ici Rabbi Elazar, c'est que la Géoula sera précédée d'un événement terrible dans lequel même les tzadikim ne seront pas sauvés. Et ce sera le moment de sortir et de rentrer. La Yotsev est là-bas. C'est quoi sortir et rentrer? dans le traité de Hagiga, la Gemara explique que c'est celui qui sort d'un Talmud à l'autre. C'est quoi les Talmuds que vous connaissez? Celui de l'exil et celui d'Eretz Israël. C'est-à-dire, au moment de sortir et de rentrer, c'est là qu'il y aura une grande persécution. Et ce sera juste avant la Géoula. Donc Rabbi Lazar ne parle pas seulement comme Rav, comme Rabbi Abba, de la résurrection agricole en Eretz Israël, il parle également de la Shoah. N'est-ce pas? Où Shmuel Amar, et Shmuel a amené un troisième signe. Achiyu kolashiarim kullan shekulim. Jusqu'à ce que tous les prix soient égalisés. Il y aura un système économique planificateur qui va s'emparer d'une grande partie de la planète. Pas du tout.
Non, est-ce qu'ils choisissent le prix du blé ?
Pas du tout, pas du tout. C'est ce qui s'est passé lors de la révolution bolchevique. Une grande partie du monde est tombée aux mains d'une économie de planification. Et Shmuel dit, c'est ça qui précédera le retour d'Israël. Donc nous avons ici trois événements qui, d'ailleurs, comme par hasard, se sont réunis ensemble. Il y a eu une convergence des trois opinions à notre époque. Il y a eu à la fois résurrection agricole, il y a eu la Shoah, il y a eu le communisme, et les trois sont considérés comme des approches de la Géoula. Effectivement, il y a eu également la Géoula. Intéressant quand même ce texte de la Guémara. Maintenant, on peut toujours dire, mais qui le comprend mieux que le Rambam ? Le Rambam lui-même dit que lorsque les événements seront proches, alors on saura de quoi les prophètes ont parlé. C'est-à-dire que le Rambam est plus loin que nous, donc il dit que lui, il ne peut pas comprendre aussi bien que nous de quoi ça parle.
Il y a d'autres choix, non ?
Il n'y a pas le choix. L'acquisition, ce n'est pas la choix. L'inquisition, c'est l'inquisition. C'est pas la même chose. D'accord ? Donc, peut-être qu'on l'avait honoré dit. Effectivement, il y a eu plusieurs fois, quand il y a eu des persécutions terribles dans l'histoire, les rabbins disaient, c'est probablement de ça dont parle la Guémara. Mais après, la proportion a été tellement énorme qu'on comprend que tout cela est rien par rapport à la Shoah.
L'inquisition, ils pouvaient se
convertir, non ? Oui, c'est vrai.
Alors que la Shoah,
il n'y avait pas le choix. Ah, très bon. Très bon jeu de mots. Bon. Ah bon, vous n'avez pas remarqué. Oui. Bon. Après, vous avez toute une série de textes à voir quels sont les événements qui se rapprochent de la Shoah, mais qui se rapprochent de la Géoula. Mais en tout cas, donc, c'est très important de comprendre ce texte qui est que Rabbi Eliezer, finalement, est réfuté. Maintenant, je vais vous amener une objection à ce que j'ai dit. Le Rambam, dans Ilchot Teshuvah, dit « Israël ne sera sauvé que par la Teshuvah ». Donc il semble se ranger à l'opinion de Rabbi Eliezer. Ah ! Bizarre, non ? C'est faux. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le Rambam le dit dans Ilchot Teshuvah, pas dans Ilchot Geoula. C'est-à-dire que quand le Rambam nous dit la grandeur de la Teshuvah, c'est pour nous dire, sache à quel point la Géoula c'est important, à quel point la Teshuvah c'est important, ça peut amener la Géoula. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, il y a un texte du Rambam dans quatre endroits différents dans son commentaire de la Mishnah et également une fois dans son épître sur la résurrection. Dans ces cinq textes, donc, le Rambam énonce un principe qu'à chaque fois qu'il y a un débat entre nos maîtres sur un sujet qui n'a pas de conséquences pratiques, on ne dit pas « la halakha est comme l'un et pas comme l'autre ». La halakha est vraie et comme les deux à la fois. N'est-ce pas ? Comment ? Si tu as un débat dans la Gemara à propos du lait et de la viande, alors tu es obligé de trancher. Tu dis la halakha comme l'un, pas comme l'autre. Mais si le débat est sur un sujet métaphysique, Tu ne dis pas la halakha comme l'un et pas comme l'autre. Ça, c'est un principe du Rambam. Donc le Rambam peut à la fois citer et être d'accord avec Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua à la fois. C'est la raison pour laquelle dans Ilchot Teshuva, il cite l'opinion de Rabbi Eliezer et que dans Ilchot Geoula, il amène par l'opinion de Rabbi Eliezer, il dit le Mashiach viendra, il amènera la Geoula. D'accord ? C'est-à-dire, ça veut dire que les deux sur les opinions sont vraies. Et donc, ça, on ne peut pas tirer d'argument de ce que dit le Rambam dans Ilchot Teshuva. C'est ça ? Bon, ben voilà, tout ça a été important, à mon avis, de l'apprendre. Voilà.